Bonjour à tous. Oui, notre générique qui démarre tout de suite, je pense. Et nous sommes bien au salon. L'économie en question en direct donc du Salon du Livre et trois grands thèmes de réflexion que nous privilégions ce matin à l'occasion de la sortie de trois ouvrages dont nous recevons bien sûr les auteurs. Des thèmes de grande actualité, vous verrez, dont s'empare aussi le débat politique et qui ont fait et font encore l'objet de multiples travaux du côté des économistes ces dernières années. Les tous trois sont d'ailleurs étroitement liés. Les bouleversements récents au plan international avec l'arrivée de la nouvelle administration américaine, avec les contextes électoraux dans plusieurs pays d'Europe, alors même que l'Union, c'est aujourd'hui, célèbre les 60 ans du traité de Rome, avec aussi la tentation observée un peu partout du repli du protectionnisme, souligne encore l'actualité de ces thèmes finance, immigration, mondialisation. C'est donc notre sujet ce matin et c'est aussi l'actualité du livre économique. Et nous recevons donc trois auteurs. Yasmina Jaidi, d'abord, que je salue, qui vient nous voir pour la première fois, maître de conférence au CIFOP. C'est un institut de formation de l'université de Paris 2, Panthéon-Assas. Elle est aussi professeure affiliée à l'ESCP, l'école de commerce de Paris, ESCP Europe, et co-auteur avec Ezra Suleiman, Franck Bournois, de, je cite, « La prouesse française » parue aux éditions Odile Jacob. Il sera question de management et de la présence des entreprises du CAC 40 dans le monde. Quelques idées reçues sont d'ailleurs combattues dans ce livre, on va y revenir. El Mouhmoud, qui lui est un familier de notre émission, on est toujours content de recevoir, professeur d'économie à l'université de Paris-Dauphine, qui vient de faire paraître « L'immigration en France » aux éditions Fayard, après d'autres travaux importants sur le même sujet, également spécialiste des entreprises mondialisées. Et enfin, Vivien Lévy-Garbois, économiste également, auteur de « Le monde à taux zéro ». Et là, il s'agit de la finance, et la finance qui est un peu partout. On parlera avec lui du prix de l'argent. Et puis, en toute fin d'émission, nous saluons aussi la présence de Catherine André, journaliste à Alternative Économique, notre partenaire dans notre émission. C'est bien l'économie en question. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Salut d'abord à tout le public autour de nous et bienvenue à tous. Il est vrai, nous partons des livres dans notre sujet, mais nous recoupons donc ces trois grands thèmes extrêmement importants. Peut-être démarrons avec vous, justement, sur le prix de l'argent, Vivien. Lévy-Garbois, vous avez pointé, ce qui n'est pas une nouvelle, évidemment, les désordres de la finance dans ce livre. Mais pour vous, on est à la fin d'une période que vous considérez vraiment assez exceptionnelle si l'on remonte un peu dans l'histoire économique.
Oui, absolument. C'est une période qui, quand on prend du recul, s'achève. Et cette période, le symptôme de cette période, d'une certaine manière, c'est les taux d'intérêt. Et quand on regarde les taux d'intérêt, ils ont trois éléments exceptionnels, trois caractéristiques qui en font une période unique. Premièrement, tout le monde le sait, ils sont très bas, voire négatifs, ce qui est une sorte de transgression. Hein. Deuxièmement, et ça c'est peut-être plus important à comprendre, ce qu'on appelle les taux d'intérêt réels, c'est les taux d'intérêt déflatés de l'inflation. Enfin, une fois qu'on a enlevé le taux d'inflation, eh bien, ces taux d'intérêt réels ont baissé depuis 30 ou 35 ans. Pas depuis la crise financière, mais
donc ils ne sont pas dus à la crise financière.
Donc ils sont pas dus. Cette baisse tendancielle, elle n'est pas due à la crise financière. Et donc, il faut chercher aussi des explications ailleurs que dans la crise financière. D'autant que ce taux d'intérêt réel, c'est celui que les économistes et que les macroéconomistes considèrent comme crucial pour beaucoup de phénomènes économiques. Et enfin, troisièmement, bien sûr, ce taux bas, ce taux d'intérêt nominal bas, eh bien, il est dû pas du tout à l'inflation, qui est une sorte d'inflation. Enfin, le taux d'intérêt réel bas, si vous voulez, il n'est pas dû à l'inflation très élevée, ce qui a été toujours le cas dans l'histoire, hein, dans les guerres, dans les périodes des années 70, etc. Mais il cohabite en quelque sorte avec une inflation faible, nulle, et donc tout est bas. Hein, la croissance, l'inflation, les taux d'intérêt. Donc c'est ça le symptôme, et en réalité c'est le symptôme qui s'achève, parce qu'on est au plancher là, et la période nouvelle, elle va être assez fondamentalement différente, en tous les cas au plan économique et financier.
Oui, très intéressant, parce qu'en fait vous parlez d'un voyage au bout de l'économie, c'est le sous-titre de votre livre, hein, Le monde à taux zéro. Et vous pointez donc ces difficultés, mais au fond, à qui profitent les taux bas? Puisqu'on a le sentiment parfois qu'on pourrait gagner, je ne sais pas, mais...
Oui, eh bien ça, il y a un grand gagnant dans les taux bas, c'est l'État. Hein, et d'ailleurs, tant mieux. Parce que,
plus que les banques, plus que les assurances, plus que...
Et alors, on s'attendait à ce que les entreprises en profitent, parce que les entreprises...
Puisque, bien sûr, les entreprises...
Mais c'est pas tellement le cas, parce que... D'abord parce que ces taux bas, ils s'accompagnent d'une croissance faible, d'une grande incertitude, de beaucoup de difficultés. Et en même temps, parce que elles ont beaucoup, comme il y a beaucoup d'incertitudes, elles ont beaucoup accumulé de cash. Hein, donc en fait, elles n'en gagnent pas, tellement. Les épargnants, bien sûr, ils sont un peu les victimes de ça. Et donc on s'attendrait à ce que le système financier soit neutre, hein, parce que c'est des intermédiaires, donc ils empruntent et ils prêtent. Donc si ça coûte pas cher à emprunter, on peut emprunter pas cher. Et c'est pas le cas. C'est ça le point important, c'est que il y a une situation particulière dans les assurances, dans les banques, qui fait que les taux bas, d'une certaine manière, c'est assez fatal pour elles si ça dure.
Et ce que vous nous dites en concluant cet ouvrage, hein, ce voyage au bout de l'économie, c'est que ça ne va pas durer et qu'on va passer assez prochainement à autre chose. Yasmina Jaidi, peut-être un commentaire sur ce qu'on entend là. Est-ce que les entreprises ont à souffrir plutôt des taux bas qu'à en profiter?
Alors, c'est... Moi, je viens là plus en gestionnaire, donc est-ce qu'ils ont à souffrir ou pas? C'était moins le projet du livre qu'on a écrit. Hein, mais en tout cas, ce qu'elles disent, c'est vrai, c'est qu'elles rencontrent une situation qui est inégalée, avec ce que vous évoquez, cette idée d'incertitude, d'un monde qui s'achève, d'un monde qui commence, et beaucoup d'interrogations sur la manière dont on doit gérer les équipes. Et dont on doit gérer et créer de la performance dans ce contexte incertain que vous évoquez.
Oui, ce qu'on peut dire au fond, c'est que les désordres de la finance, qui concernent bien sûr toute l'économie mondiale, met aussi en difficulté les méthodes éventuellement de management ou de conduite interne des entreprises. El Mouhmoud, sur cet ouvrage de Vivien Lévy-Garbois.
Ouvrage très intéressant que j'ai lu, que j'ai terminé de lire ce matin, car nous avons
en se dépêchant dans le métro même.
Oui, et effectivement, alors. Sur ces taux d'intérêt réels très très bas, le constat, le diagnostic qui est fait est vraiment extrêmement pertinent et intéressant. L'ouverture qui est faite à la fin sur le livre, sur un certain nombre de propositions peuvent peut-être conduire à débattre. Je ne sais pas si c'est le lieu, mais j'aurais souhaité demander à Vivien Lévy-Garbois ce qu'il pense de sa proposition d'accélérer encore plus la titrisation et la désintermédiation, alors qu'on aurait pu penser que ce fut la raison aussi de la diffusion massive de la crise financière.
Peut-être
est-ce que j'ai mal compris, ou est-ce que il y a plutôt une nuance à apporter à cette...
Attention à ne pas être trop technique, juste expliquer un petit peu de quoi il s'agit.
Alors, mais peut-être que...
On va laisser Vivien Lévy-Garbois le faire. Parce que c'est vrai que c'est un chapitre important chez vous.
La titrisation, ça consiste à se servir des crédits pour les transformer en titres. Hein, c'est-à-dire à développer en quelque sorte au détriment de l'intermédiation classique ou à côté de l'intermédiation classique des banques, les marchés financiers, en créant des actifs cessibles, liquides et qui s'échangent sur un vrai marché à chaque instant, qui sont des crédits titrisés, hein, qui ont un prix. Et donc c'est une manière pour les banques de dégonfler leur bilan et de pouvoir faire autre chose pendant ce temps-là. C'est une manière aussi pour les épargnants d'avoir des produits qu'ils analysent, qui ont des risques, bien sûr, mais qui ont parfois des rendements qui peuvent être intéressants, oui. des couples rendement-risque intéressants pour eux.
Et donc votre réponse...
Ma question, c'est de savoir si ce n'est pas un risque de diffusion des crises financières. Et si dans la crise des subprimes, ça n'a pas été l'élément, mais peut-être que c'est une idée reçue aussi qu'il faudrait battre en brèche, si c'est peut-être ça que vous faites.
On est ici un peu dans une économie un peu virtuelle, un peu ce sentiment, comme toujours, que l'économie réelle nous échappe.
Enfin, les crédits sont pas virtuels. Les crédits sont pas virtuels. C'est, enfin, ce que vous dites est tout à fait juste. Hein. La titrisation a été au centre de la propagation de la crise financière, et donc ça, il faut faire très très attention. Ceci dit, c'était une titrisation un peu absurde, mal fagotée en quelque sorte, avec des estimations de risque erronées, avec des découpages, des sophistications absurdes. La titrisation, elle peut être très simple.
Et dont il va falloir donc sortir, ça va dans le sens de la question d'Elmoud. On va passer à votre ouvrage, si Yasmina Jaïdi le veut bien, mais vous rentrez dans notre discussion. Tout autre sujet, mais peut-être que vous allez faire le lien. Elmoud, vous avez fait paraître dans ce livre sur l'immigration en France. Alors, j'ai vraiment envie d'y insister parce que vous êtes souvent venu dans cette émission pour y présenter des résultats de vos travaux. Et dans ce cas précis, le thème de vos recherches, donc l'immigration, vous êtes venu aussi pour les défendre contre des idées reçues, hein, pour le coup des assertions plus ou moins intentionnelles ou malveillantes d'ailleurs, ça dépend. Et dernier ouvrage paru, donc celui-ci, Mythes et réalité, et vous détruisez une quinzaine de mythes. Quelques rappels importants d'abord, les pays de l'OCDE ont tous besoin d'immigration, il faut le rappeler, c'est l'OCDE qui le dit, les grands pays développés. Pourquoi ? Parce que la démographie baisse dans beaucoup d'entre eux, parce qu'il y a un besoin de relance économique et parce qu'il y a aussi un besoin d'emploi. C'est le point de départ. Mais puisque je reviens à vos recherches, vous dénoncez aussi un mauvais recensement des migrations. Et ça, je ne l'avais jamais lu.
Oui, non. En fait, ce qui m'a conduit à écrire ce livre, ça n'est pas une volonté de défendre l'immigration. À la limite, ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est de, en tant qu'économiste et chercheur en sciences sociales, d'essayer de proposer au grand public, et dans ce cadre du débat électoral, c'est encore extrêmement
encore plus important,
un débat qui puisse être fondé sur des diagnostics sérieux. Or, vous pouvez encore suivre les émissions de débats télévisuels des candidats, on est sur des chiffres qui sont totalement erronés. Alors maintenant, on a compris que la France n'est plus un grand pays d'accueil, c'est le premier mythe. Mais jusqu'à une période récente, on acceptait encore l'idée qui a été proposée par le Front National, il faut bien le dire, et qui a été acceptée par tous les candidats en 2012, comme celle l'est encore aujourd'hui, sauf par certains candidats, que nous serions un pays qui serait totalement envahi par des flux de migration. La réalité, elle est la suivante. D'abord, nous recevons 200 000 immigrants en flux, c'est-à-dire le robinet qui coule, par an, et ces 200 000 immigrés par an qui viennent, il y en a 100 000 qui repartent, et vous avez 20 000 migrations de travail. Et sur ces 20 000 migrations de travail, vous avez 10 000 qui sont des étudiants qui transforment leur statut en travailleurs. Donc les flux d'immigration en France sont extrêmement faibles et placent la France en peloton de queue parmi les pays de l'OCDE. On est à 0,3% de notre population contre 0,7% pour la moyenne de l'OCDE. Donc il y a vraiment une idée reçue. Et si on continue à mentir sur les chiffres, eh bien on ne peut pas avoir une politique sérieuse, une politique qui soit efficace et juste en matière d'immigration. Ça, c'est le premier propos. Oui.
Et je le rappelle, ces chiffres que vous nous citez, qui sont l'objet de vos travaux, recoupent ceux de beaucoup de chercheurs, et bien notamment, sûr. Je le dis encore, de l'OCDE, qui n'est pas a priori...
Et je rappelle que l'OCDE, comme l'INSEE, définissent l'immigration au sens large. C'est-à-dire qu'un immigré, c'est quelqu'un qui part d'un pays A, par exemple le Mali, qui vient en France et qui prend la nationalité du pays d'accueil, il se naturalise, ou qui garde sa nationalité du pays d'origine. Donc là, en stock, on a 5,9 millions d'immigrés en France, c'est-à-dire de gens qui sont venus d'un autre pays, qui ont gardé leur nationalité étrangère ou qui ont pris la nationalité du pays d'accueil. Au total, ça fait 8,5% de la population française contre 12% en moyenne des pays de l'OCDE. Donc on est encore à 4 points en dessous des pays de l'OCDE. Donc nous dire sans arrêt que nous sommes un pays sur lequel défère l'immigration est simplement un faux constat qui est accepté de manière totalement stupide, car on pourrait, j'ai fait un scénario dans lequel on pourrait supprimer toute immigration. Entre parenthèses, d'ailleurs, Marine Le Pen ne dit pas immigration zéro, mais solde migratoire de 10 000. Ça veut dire qu'elle laisse entrer 100 000 encore, et plus 10 000, ça fait 110 000. Donc, quand même, il y a quelque chose d'assez intéressant là-dessus. Mais on pourrait supprimer tout flux migratoire et on ne réglerait pas les problèmes que nous avons, qui sont des problèmes structurels, qui sont liés à l'échec des politiques structurelles, politique d'aménagement du territoire, politique du marché du travail, politique du logement et politique de l'éducation.
Et coordination européenne.
Pour ce qui est des réfugiés.
Alors, point également intéressant, un autre mythe que je relève, hein, vous avez dit il y en a 15, donc on renverra à votre ouvrage, que j'ai trouvé moi assez nouveau, je le résume très vite, plus un pays est pauvre, moins il envoie de migrants, et plus ces migrants sont qualifiés. Je ne sais pas, mais moi j'ai trouvé cette affirmation assez inattendu, en tout cas. J'en regarde un peu. J'ai l'impression qu'on l'entend de cette manière-là. Oui. Et je trouve ça très intéressant aussi. Développons juste un petit peu.
Là aussi, c'est une vulgate qui a été acceptée par tout le monde. On reçoit la misère du monde parce que cette phrase a été diffusée. C'est totalement erroné. Pourquoi c'est erroné? Parce que, qu'est-ce que vous avez comme situation? Dans les années 60-70, les immigrés venaient parce qu'on allait les chercher. Vous avez vu ce film de Yamina Benguigui qui s'appelle « Mémoire d'immigrés ». Et donc, on allait les sélectionner pour leur santé physique. On les ramenait, on espérait qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Donc, les coûts d'immigration, les coûts pour sortir, étaient pris en charge par les pays d'accueil, par les entreprises des pays d'accueil, qui dans le bâtiment, les travaux publics, les mines, etc. Avec l'arrêt de l'immigration, les coûts de mobilité, les coûts pour partir sont devenus exorbitants et sont passés des entreprises des pays d'accueil vers les migrants eux-mêmes. De sorte que ça conduit à deux résultats remarquables que la littérature économique a mis en avant ces dernières années grâce à l'utilisation de bases de données sérieuses et documentées. Le premier, c'est que les pays pauvres sont les pays qui ont les taux d'expatriation, les taux d'émigration les plus bas.
Émigrer coûte cher, en clair.
Et parce que émigrer coûte extrêmement cher. Et les pays à revenus intermédiaires sont les pays qui ont les taux d'expatriation les plus élevés. Puis ensuite, quand on rattrape les États-Unis, l'OCDE, alors on devient un pays d'immigration. Ça, c'est un fait qui est totalement... on peut refaire les travaux empiriques tant qu'on veut, on trouvera ce même résultat. Le deuxième effet, c'est un effet que les économistes appellent d'autosélection. Ça veut dire, comme ça coûte très cher d'émigrer, bien, les plus à même d'émigrer, ce sont ceux qui vont s'éduquer, rentrer dans les systèmes d'éducation, se qualifier. Et donc, on a un effet de sélection, une surreprésentation des qualifiés par rapport aux immigrés dans les vagues récentes d'immigration. Ce qui n'était pas le cas, évidemment, dans les années 60-70. Et donc, quand on mélange tout, on a un niveau de qualification qui est relativement bas pour les immigrés par rapport aux natifs. Mais quand on prend les cohortes récentes, le niveau, l'INED l'a encore montré dans une enquête récente, le niveau de qualification des migrants, des vagues d'immigration récentes, est plus élevé que celui des natifs. Bon, ceci est dû à cet effet d'autosélection.
Avec des conséquences sur les pays d'émigration, on n'a pas trop le temps de le développer là pour l'instant, mais qui est quand même important, hein, des effets qui peuvent être négatifs, notamment dans le domaine médical. Beaucoup de médecins bien formés dans les pays,
Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais dernier point, effectivement, ça c'est aussi quelque chose qui n'est pas connu. Sont connus les travaux sur les effets sur les salaires dans les pays d'accueil, sur le marché du travail, même si certaines personnes continuent à dire que c'est ça qui est responsable du chômage. Tout le monde sait que c'est totalement ridicule, car on a un taux de chômage de 10% et on a des difficultés de recrutement sur le marché du travail qui sont connues. Des besoins de main d'œuvre de 300 000 selon le MEDEF, 200 000 selon Pôle emploi, qui ne sont pas pourvus. Pourquoi ? Parce que le marché du travail, c'est compliqué. Ça, c'est connu. Mais ce qui est moins connu, c'est le fait que les gens qui partent, que les pays pauvres ont réellement les taux d'expatriation les plus faibles, mais quand vous décomposez par niveau de qualification, vous allez trouver que c'est eux qui ont les taux d'expatriation les plus élevés. Par exemple, prenez Haïti, 70% de leurs qualifiés sont à l'extérieur, contre 6% pour la Chine. Ça vous donne un bon écart. Et donc, si vous voulez, le coût pour les pays les plus pauvres, c'est le coût le plus élevé, alors que les pays à revenus intermédiaires gagnent dans l'émigration de leurs qualifiés. Et ça pourrait contribuer à avoir un débat serein qui puisse dire, eh bien, faisons des propositions plutôt que de dire, faisons du co-développement n'importe comment, ça marche pas, ou arrêtons tout flux migratoire, on voit bien que ça n'a rien à voir avec les problèmes structurels de l'économie, mais rentrons dans la connaissance des faits pour essayer d'avoir des propositions qui soient solides et qui soient gagnantes pour tout le monde. Voilà.
Et lisons les travaux des chercheurs. Merci, El Mouhmoud. Yasmina Jaidi, Viviane Lévy-Garbois, réaction sur ce travail que vous avez eu le temps de lire, je sais.
Oui, alors, pour ma part, j'ai trouvé le livre très intéressant parce qu'il bat effectivement en brèche un certain nombre d'idées reçues. Et c'est un point commun que nous avons aussi dans le travail de recherche que nous avons fait. Bon, le temps nous est compté, mais il y a notamment un de vos résultats où vous évoquez les femmes immigrées et leurs qualifications. Et vous notez, si mes souvenirs sont bons, qu'elles sont en général plus qualifiées. Hein, quand on regarde la population immigrée, les femmes sont souvent plus qualifiées, celles qui arrivent, c'est ça ?
C'est exactement dans la suite de ce que je disais tout à l'heure, l'effet d'autosélection. Puisque pour émigrer, ça coûte cher. Il faut investir dans l'éducation pour pouvoir partir. Ça, c'est vrai pour les garçons comme pour les filles. Mais les filles subissent en plus des coûts supplémentaires par rapport aux garçons, qui sont des coûts du patriarcat, etc. Et donc, elles sont encore plus incitées à investir dans l'éducation pour émigrer, d'où le constat dans les chiffres récents d'une féminisation des flux migratoires et d'une surreprésentation des qualifiés parmi les migrants qualifiés, des qualifiés femmes.
C'est intéressant. Merci de pointer ça. Ouais.
Mais dans notre recherche, on pointe aussi que les femmes s'adaptent plus facilement. Alors, les femmes étrangères qu'on étudie, les managers femmes étrangères qui travaillent dans le CAC 40, s'adaptent plus vite et plus facilement aux pratiques managériales des grands groupes que les hommes.
Car votre livre, La prouesse. Monsieur Lévy Garbois.
Je vais me joindre aux éloges parce que le livre est très intéressant. Enfin, en tout cas, pour moi qui ne connais pas très bien ce sujet, j'ai trouvé ça passionnant. Et en même temps, à la fin, on est nulle part. C'est-à-dire que. On est dans la complexité finalement,
et
on voit le problème.
Même s'il y a des propositions,
énorme difficulté de la gouvernance de ce sujet, parce que quand on doit tenir compte à la fois des problèmes des pays d'accueil, des problèmes de pays de départ, c'est bien compliqué.
Restons à la frontière de ces deux travaux finalement avec vous, Yasmine Ajaidi. Je l'ai dit, vous faites paraître avec Ezra Suleiman, qui est bien connu, université de Princeton, qui était en France d'ailleurs ces jours-ci, et Franck Bournois, La prouesse française. Vous dites des idées reçues parce que quoi ? Vous avez le sentiment qu'on a un petit peu, peut-être un regard un peu sévère sur le fameux célèbre CAC 40 français et que vu d'ailleurs, il est plutôt bien considéré.
Alors, d'une manière générale, on a un regard sévère. En général, les auteurs français ont souvent un regard sévère sur la France. Et quand on regarde les écrits sur la France, qu'ils soient faits par des étrangers ou des Français, les étrangers portent plutôt un regard assez positif sur la France.
Et dans c'est notre point de départ. Ouais.
Donc, le point de départ, ça a été plutôt de partir de la mondialisation, qui est le thème un des thèmes de votre émission, et de se dire, parce qu'il y a justement une idée reçue qui veut qu'avec la mondialisation, les pratiques des entreprises, les pratiques managériales se standardisent, se diluent dans une sorte de quelque chose d'un peu commun à tous. Et nous avons voulu un peu interroger les pratiques managériales des grands groupes du CAC 40 en prenant ça comme objet d'étude. En essayant de faire le point, mais en prenant un peu le contre-pied de ce qui a pu être fait jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'en allant voir des personnes étrangères qui travaillent dans ces grands groupes pour nous dire pourquoi elles sont venues dans ces entreprises, comment elles vivent la relation au manager français et qu'est-ce qui se dégage finalement du quotidien de la vie dans ces grandes entreprises.
Et vous avez eu quelques surprises ?
Alors,
pour vous, mais pour nous.
Si, en fait, on a eu beaucoup de surprises parce qu'on est parti sans a priori. On avait bien sûr lu ce qui s'est écrit sur le sujet par le passé. Et on a été très surpris de voir qu'il y a des choses positives dans ce que nous disent les managers étrangers. On a interrogé, en fait, on a sollicité 100 000 managers non français qui travaillent tous dans des grands groupes du CAC 40, 20 grandes entreprises, à vrai dire. Et in fine, ce sont près de 2500 qui ont participé effectivement à notre recherche. Et ils nous ont surpris en nous disant qu'il y avait beaucoup de choses qu'ils appréciaient dans les entreprises françaises. Alors je vous les donne en vrac parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais le sens de la performance, ça c'est une chose qu'ils apprécient. La créativité, le sens de l'innovation, une forme d'humanisme aussi parce que ces entreprises, c'est une population relativement choisie aussi, ce sont plutôt des managers, placent ces personnes au centre de leurs préoccupations pour les faire grandir, pour les développer et pour se placer quand même dans une relation de long terme avec elles. Et puis aussi, alors, une alliance subtile de flexibilité et de rigueur qui parfois leur déplaît, mais aussi dont ils trouvent qu'elle a des avantages parce que, bien sûr, parfois, il y a des règles très strictes, mais en même temps, on sait contourner les règles quand il le faut. Alors, il faut un peu de temps pour le comprendre, mais ça fait partie des points positifs.
Qui sont de grandes différences avec d'autres entreprises mondialisées ? Est-ce que la France se distingue en ce domaine, les grandes entreprises françaises ? Vous irez jusque-là ?
Quand on leur a posé la question, on leur a dit, est-ce que pour vous le management à la française est unique ? Et c'est près de 70% d'entre eux qui nous disent que c'est unique. Et les analyses statistiques qu'on a faites, parce qu'on a 2500 personnes qui ont répondu, font apparaître un point commun avec ces éléments positifs que je signalais. Mais aussi, évidemment, des points d'achoppement, il ne faut pas non plus se leurrer. Parmi eux, la décision à la française, extrêmement compliquée à comprendre. On vient en réunion et puis finalement, il ne se décide pas grand-chose. Et puis ça se décide à la machine à café. Enfin, le livre est truffé d'anecdotes. On a vraiment eu le souci dans le livre d'être le plus accessible possible et de donner le maximum d'anecdotes qui nous ont parfois fait rire parce que elles sont parfois...
Oui, ça donne beaucoup d'enseignements sur la pratique au quotidien. Vous les connaissez, ces grandes entreprises.
Oui,
Vivian Lévy-Garbois, vous avez travaillé à BNP Paribas, me semble-t-il.
Je suis pas très surpris parce que, en fait, les entreprises du CAC 40, on devrait en être très fiers. Hein. C'est des superbes entreprises et c'est des réussites françaises. Le management... Il est à la fois ce que vous décrivez et en même temps une chose qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, c'est c'est qu'il y a, il y a quand même, il subsiste un sujet sur la couche supérieure.
Absolument. Hein,
c'est-à-dire
absolument.
Que les top managers, oui. Ils restent encore un peu français. Enfin, il y a une caractéristique mais... particulière, qui sont détachés un peu du reste.
Oui, la vie du chef, hein, Yasmina Jaidi.
Oui, c'est très vrai. Et en fait, c'est là qu'on a vu une transformation de ces entreprises. C'est-à-dire qu'au quotidien, dans la relation de proximité, les choses sont très faciles quand même, assez informelles. Mais le top management reste... un peu plus axé sur, très marqué par les réseaux notamment.
Alors on va vous donner les 5 dernières minutes à tous les 3. D'abord pour entendre Catherine André de Alternative Économique qui a choisi un livre elle aussi. On est au Salon du Livre, on vous a demandé. Et ensuite chacun d'entre vous, j'espère, aura le temps de nous recommander une lecture qui vous aura particulièrement intéressé. On rappellera bien sûr les titres de vos 3 ouvrages choisis ce matin. Bonjour Catherine André, Alternative Économique, notre partenaire aujourd'hui.
Bonjour Dominique. J'ai grand plaisir à vous présenter le livre de Gilles Raveau à la mémoire de l'économiste Bernard Maris, dont il est, on peut dire, le fils spirituel. Ce livre, intitulé « Bernard Maris, expliqué à ceux qui ne comprennent rien à l'économie », est un guide, un véritable guide de sa pensée et un très bel hommage rendu à cet anti-économiste, car on y voit l'homme derrière l'économiste. Il est dédié à tous les Charlies d'hier et d'aujourd'hui et illustré par les dessinateurs Coco, Félix, Juin, Ris, Villemain et Willem. C'est encore tellement frais dans nos mémoires, Bernard Maris a été assassiné dans l'attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 à Paris, avec 11 autres personnes, dont les dessinateurs Charb, Tinius, Cabu et Wolinski. Il a sans doute beaucoup contribué à démystifier et à rendre limpide à beaucoup de gens cette si obscure science économique. Car Maris se définissait avant tout, je cite Raveau, comme un passeur, un transmetteur de connaissances qui rendait accessible au plus grand nombre les notions les plus complexes. Gilles Raveau, qui enseigne l'économie à l'Université de Paris 8, rassemble dans ce livre les idées fortes de Maris et leur évolution au fil du temps. Clairement, ce sont Keynes, Marx et Freud qui figurent parmi les références clés de Maris, pour qui le fondement de l'économie repose avant tout sur la psychologie. Il s'attaque à la doxa économique et fustille, je cite, « le mythe de la compétition poussée jusqu'à l'absurde ». Il voulait redonner toute sa place à l'humain et la question des inégalités est tout à fait centrale dans son travail. Maris s'en référait à Keynes qui affirme que la politique économique est un aspect de l'éthique, car pour Maris, je cite, « tout est question de morale ». À chacun de savoir s'il achète des objets produits à la sueur d'enfants martyrisés, de la nourriture empoisonnée par les agriculteurs, s'il préfère se déplacer en vélo ou en 4x4 dans les centres-villes. « L'homme osera-t-il être libre ?» demandait Maris en conclusion d'un livre « Keynes ou l'économiste citoyen ». « Comment aller vers une société d'homo bénévolens ?» écrit Gilles Raveau. Je cite, Maris ne le dit pas, mais relève simplement ceci, l'homo bénévolence me permet de sortir du capitalisme et d'aller vers la connaissance et la beauté. C'est pas mal. Je dois préciser que Bernard Maris aimait beaucoup Alternative Économique et que c'était ô combien réciproque, et que Gilles Raveau est un contributeur régulier. Bernard Maris nous manque, il a ouvert des chemins de traverse et fait tomber beaucoup d'idées reçues. Sa vision fondamentalement critique, distanciée, où l'humour est parfois l'ironie mordante, occuper une place de choix, manque cruellement en débat.
Merci beaucoup, Catherine. Un très bon choix et on le soutient, évidemment. C'est quelqu'un que nous apprécions beaucoup les uns et les autres, et un grand passeur, comme vous dites. C'est important dans le domaine qui nous occupe aujourd'hui. Très vite, c'est quelles éditions d'ailleurs, vous ne l'avez pas précisé ?
Les Échappées.
Les Échappées, on trouvera aussi au Lien qui libère plusieurs ouvrages de Bernard Maris, qui était un de leurs grands amis. Très vite, Yasmina Jaidi, vous avez un livre à nous suggérer qui vous a bien plu ces derniers temps ?
Alors, moi j'ai envie, on a beaucoup parlé de monde complexe, de monde qui change, et j'ai envie de mettre en avant les travaux d'un professeur du MIT qui s'appelle Otto Scharmer, avec un livre qui s'appelle « La théorie U » aux éditions Yves Michel, et qui propose une manière de porter le changement en sortant en fait des routines et en réinterrogeant nos principes de fonctionnement.
Voilà. On mettra ce livre bien sûr sur notre site avec tous les autres, Helmut Mood.
Oui, un livre remarquable que je suis en train de lire, que je n'ai pas fini de lire. Patrick Boucheron, tout le monde l'a vu, éditeur,
connaît,
Histoire mondiale de la France, au seuil, un souffle.
Bravo, merci. Très vite, Vivien Lévy-Gourois. Oui,
une réédition d'un livre dont je parle longuement dans mon livre, qui est la lettre à nos petits-enfants de Keynes, qui est une magnifique lettre, qui est rééditée par les
Liens qui libèrent. Ça rejoint Maris.
Hein, et qui est une superbe vision
merci
du monde.
Merci à tous au Salon du Livre. Merci à notre public qui nous écoutait. Prise de son, Emmanuel Morse d'Incan, Gilles Manet, David Anéas. Et bien sûr, Laetitia Coya à la réalisation, Laurence Genepin, préparation, documentation. On se retrouve nous samedi prochain en studio, plus calme et peut-être moins sympathique. À très bientôt, journal à suivre, Anne Fauquemberg.